Je ne vais pas lire le récit officiel de la Pentecôte, ce que vous le connaissez bien, mais je vais lire ce que Pierre a dit ce jour-là, au partir du verset 14 du chapitre 2. Alors Pierre, debout, avec les onze, éleva la voix et s'exprima en ces termes. « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu, devant vous par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a fait par lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Ce premier discours de Pierre, et au passage, tous les détails de la parole de Dieu sont importants. Le détail qui, au premier verset, au verset 14, dit qu'il était debout avec les onze, ça montre justement que l'ensemble des apôtres sont concernés. C'est vrai que tous les apôtres auraient pu prendre la parole, hein, mais comme dans le monde humain, il n'y en a qu'un seul qui prend la parole, sinon voilà, c'est, c'est la cacophonie, c'est vrai. Pierre est le représentant des apôtres. Hein. C'est pour ça que quand Jésus s'adresse à lui et qu'il fonde l'Église, quand tu es Pierre, en fait c'est Pierre en tant que leader. Donc c'est l'ensemble des apôtres qui sont concernés par l'autorité de l'Église. Bon, ça, ça rejoint l'enseignement sur l'autorité. Donc, l'ensemble des apôtres font cette déclaration de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Là, nous sommes en présence de l'enseignement de l'Évangile. Et aujourd'hui, l'Évangile prend un tas de colorations différentes. Vous avez l'Évangile de la grâce, l'évangile de la prospérité, l'évangile de social en Amérique du Sud, l'évangile du communisme, l'évangile, voilà. Il y a tout un tas, ça a été décliné depuis 2000 ans et ça continue à l'être, dans un tas de bonnes nouvelles. Mais la bonne nouvelle, telle qu'elle doit être présentée, c'est celle que Pierre présente le premier jour parce qu'elle n'a pas changé. L'évangile ne change pas. L'évangile qui nous sauve, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Et c'est le contenu de ce message qu'il faut retenir quand il présente en quelques versets eh bien, le contenu de cet évangile, de ce discours que nous devons tous entendre et qui a été disons, présenté à tous ceux qui étaient là le jour de la Pentecôte, et on voit le résultat. Hein. On voit quelques versets plus loin, que verset 37, « Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, que devons-nous faire ?» Ça, c'est le résultat de la repentance. La vraie repentance, c'est quand les cœurs sont touchés par la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui disent « Que devons-nous faire ?» Et la réponse toute simple, « Repentez-vous. » Voilà. La repentance doit être au cœur et la réponse à l'évangile de la grâce. Ce matin, j'aimerais juste en le temps que j'ai ce matin, de parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est vrai que c'est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu, mais en même temps, on ne peut pas le séparer du Père et du Fils, puisque c'est sous-entend Dieu. C'est l'hypostase, c'est celui qui fonde Dieu, mais sans le séparer. On ne peut jamais séparer le Père du Fils du Saint-Esprit, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Yahvé, celui « Je suis celui qui suis ». Nous n'adorons qu'un seul Dieu. Mais le Saint-Esprit, ici, prend toute la forme, toute, disons, la dimension dans le cadre de l'Église. Alors pour cela, je vous rappelle juste que Dieu est un Dieu d'alliance, donc il a fait un certain nombre d'alliances. Et l'alliance est importante parce que quand on est dans une alliance, on est redevable les uns vis-à-vis des autres. Pourquoi les hommes et les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus d'alliance? Parce que, ou l'alliance du mariage, si vous voulez, parce que, voilà, ils veulent faire et défaire en fonction de ce qu'ils ressentent, de leurs émotions. Ah oui, je ne ressens plus rien pour mon conjoint, ben je change de conjoint. Parce que j'ai ressenti d'un seul coup quelque chose. Là, vous pouvez ressentir un tas de choses. Vous allez dans le métro, vous ressentez un tas de choses. Bon, voilà, vous n'allez pas vous marier avec première venue. Voilà. Pourtant, vous pouvez ressentir des choses. Voyez. Non, l'alliance, c'est une fois qu'on a ressenti, une fois on a fait un choix. Et Dieu a fait un choix. Le choix de faire alliance avec les hommes. Et vous avez ce passage fondamental, magnifique, du mariage dans Éphésiens 5, où le mariage est comparé à la relation entre Jésus et son Église. Donc c'est quelque chose de sacré. Sacré, c'est quelque chose qui nous relie, ce qui nous dépasse, quelque chose qui est au-dessus de nous. Et le mariage est censé être quelque chose qui nous dépasse et vers lequel nous devons avoir une grande déférence, une grande appréciation de ce que c'est que le mariage. Donc l'alliance, en fait, ça c'est l'histoire avec Adam qui est notre géniteur d'origine, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle terre et un nouveau ciel, où effectivement le péché d'Adam va être éradiqué définitivement de la race humaine et nous vivrons éternellement dans la présence de Dieu sans la présence du péché. Donc entre les deux, il y a une histoire qui est linéaire. C'est le temps, le chronos, qui se déroule. Ici, c'est l'éternité. Ça c'est le plan de rédemption, le rachat du péché d'Adam. Dans ce cadre-là, il y a beaucoup d'alliances, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a une qui est assez déterminante, c'est l'alliance avec Noé. Et comment est-ce que Dieu a scellé cette alliance? Par l'arc-en-ciel. Oui. L'arc-en-ciel, quand vous voyez l'arc-en-ciel, eh bien... Vous pouvez vous rappeler. Bon, c'est un phénomène naturel, l'arc-en-ciel. C'est pas chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel quelque chose de magique. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Mais disons que l'image, enfin l'arc-en-ciel a été choisi par Dieu. À ce moment-là, il a montré cette alliance qui est entre le ciel et la terre. Avec Noé. Pourquoi? Parce que il y avait tellement de péchés, vous voyez, c'est toujours l'idée liée aux notions du péché, la rédemption, tellement de péchés sur la terre que c'était, au temps de Noé, c'était horrible, horrible, puisque c'est les démons qui copulaient avec les femmes pour faire des monstres. Oui. Donc c'était arrivé à un point, petit à petit, on va dans ce sens-là, mais on est encore loin de ce qui s'est passé au temps de Noé, en tout cas de ce que la Bible nous en dit, que Dieu a décidé qu'il éradiquerait tous les humains de la terre Et c'est là qu'il a envoyé le déluge, qui est reconnu dans toutes les civilisations, même celles qui ne sont pas chrétiennes, qu'il y a eu un déluge, et que, à part la famille de Noé, Dieu a détruit toute l'humanité. Mais là, Dieu s'est repenti, en quelque sorte, hein, je veux dire, il a décidé de ne plus faire de déluge. Et donc, il a scellé cette alliance avec Noé. Par contre, qu'est-ce qui se passera juste avant de rentrer dans l'éternité, à la fin? Si vous connaissez l'histoire biblique, je recommence. Au temps de Noé, il y avait tellement de péchés que Dieu a détruit l'humanité par le déluge. Mais il s'est repenti en disant « je ne le ferai plus ». Par contre, le péché est là, en ce moment, il grimpe, il grandit. Ok, vous êtes d'accord avec ça? Voilà, toutes les vannes sont ouvertes, les lois permissives, de plus en plus permissives. Chacun veut faire ce qu'il veut. C'est pour ça que les lois sont votées à l'appel à l'Assemblée nationale pour qu'on ne puisse plus arrêter quelqu'un parce que chacun passe ses lois. Voilà, essaye de passer ses lois. Et donc le péché grandit. Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin pour la notion du péché, le jugement du péché? Pardon? L'homme sans loi, oui. En anglais, c'est « lawlessness »,« the man of lawlessness ». C'est l'homme impie, ça a été traduit par Louis II par l'homme impie, mais originellement, c'est l'homme sans loi, c'est vrai. C'est... Oui? Pardon? Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il ne va pas rompre l'alliance avec Noé, il ne va pas détruire par, le, par l'eau, voilà, il va détruire par le feu. Ouais. C'est peut-être pas mieux, hein, mais ici, pardon, vous préférez l'eau ou le feu? Qu'est-ce que vous voulez? Si c'était Annick qui était là, je ne sais pas si elle préférerait le feu, parce que le feu, on peut l'éteindre, hein, l'eau, on ne peut pas l'éteindre, mais bon, enfin, tout ça se discute, hein, mais quand vous êtes dans le feu, bon. Donc là, destruction par le feu, d'accord? Oui. Parce qu'il n'a pas dit qu'il n'allait pas détruire l'humanité. Dieu a dit qu'il ne détruirait pas par l'eau, par le déluge, mais ce sera détruit par le feu. Voilà. Donc, vous avez les deux extrêmes, là. L'origine de l'humanité pécheresse, la fin du péché avec la destruction par le feu. Et ensuite, après, on a les nouveaux cieux, nouvelles terres. Donc, la première alliance, enfin, première, une alliance, il y a aussi l'alliance avec Abel, etc. L'alliance très, très importante, où Dieu dit non. C'est vrai que le péché est arrivé à un paroxysme, mais je ne détruirai pas. Mais je mettrai en place un plan de salut, un plan de rédemption, de rachat. Et donc, il a choisi un homme, Abraham, hein, qui a répondu à l'appel. Il a peut-être appelé d'autres, hein, je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'Abraham a entendu la voix de Dieu, il a répondu. Donc Abraham, qui était un patriarche, le père de la foi, qui a donné naissance à Isaac et à Jacob. Et c'est quoi notre nom de Jacob? Voilà, Israël. Donc Israël, ça c'est les patriarches, Israël est né à partir d'un homme, vous voyez, qui a répondu par la foi en recevant le Dieu qui lui a parlé, donc Yahvé, et qui a marché avec lui. Et ensuite, après, il y a eu Moïse. Voilà. Et Moïse, qu'est-ce qu'il y a eu comme alliance avec Moïse? Pardon? La circoncision, c'est un acte qui est lié, oui? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Alors, Calvin n'aimait pas trop, d'ailleurs, voilà, ça se discute, ce testament, plutôt alliance. Il préférait le mot première alliance. Voilà. L'alliance de la loi. Donc sur le mont Sinaï, rappelez-vous, sur le mont Sinaï, là-haut, il a reçu les tables de la loi. Voilà. Donc c'est la naissance du peuple d'Israël, qui est issu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a eu 12 fils, 12 tribus, qui sont allés en Égypte, etc. Voilà. Donc la première alliance, ou l'Ancien Testament, c'est plus connu, cette alliance, c'est l'alliance de la loi qui fonde le peuple de Dieu, qui est censé obéir à la loi. C'est obéir à la loi. Sauf que Dieu savait très bien que cette loi, qui est bonne, ne pouvait pas être mise en pratique, en tout cas pas jusqu'au bout. Les pharisiens qu'on critique beaucoup, en fait, ils ont cherché à appliquer la loi. Et donc, autour des 10 commandements, ils en ont mis d'autres commandements pour être sûr, vous voyez, c'est un peu une logique humaine, pour être sûr que tous ceux qui sont autour, une centaine de lois autour, si on voilà, on n'arrive pas, voilà, si vous n'en faites que 80, les 10 sont toujours retenus. Vous voyez, c'est une logique humaine qui a prévalu à leur réflexion, en disant on va mettre tout un tas de lois autour, plus parce que 10 c'est pas grand chose, mais si on respecte les, enfin je dis 100, il y en a peut-être plus. Hein. Si on respecte les 100, pas que les 100, mais que 80, on a toujours les 10 qui sont respectés. Vous voyez, c'est une logique humaine. Vous voyez, ils pensaient s'en sortir de cette manière-là. C'est pour ça qu'ils étaient très à cheval sur la loi, pensant plaire à Dieu. Parce que pour plaire à Dieu, il fallait obéir à la loi. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Mais pendant toute cette période du peuple d'Israël, il y a eu des prophètes. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les prophètes ? Donc prophète, ça veut dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disaient les prophètes ? Ils annonçaient un Messie. Messie, ça veut dire oint. Ça veut dire Christ. Christ, c'est le mot Messie en grec. Messie, c'est en hébreu, c'est les mêmes choses. Messie, oint, Christ. Donc ils annonçaient un Messie. Et qu'est-ce qu'il allait faire ce Messie ? Quel était son rôle, ce Messie ? Donc Jésus. Pardon ? Vous voyez la continuité là de l'histoire ? C'est-à-dire que c'est une amélioration, enfin une amélioration. On va vers quelque chose qui va vers un sommet de l'histoire, hein, un sommet de l'histoire, pour racheter, pour nous racheter, pour que le péché dont nous sommes issus, ne puisse pas nous enlever la présence de Dieu et de vivre dans la présence de Dieu. Donc, ce Messie, donc après Moïse, qu'est-ce qu'il va, il va donner lieu à quoi ? À la venue de Jésus. D'accord ? Bon. Donc, c'est Jésus. Et vous connaissez ce fameux dicton des réformateurs. Hein. La loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Sola gratia, les cinq solas de la réforme protestante. Jésus est venu comme Messie, comme oint, etc. Pourquoi faire ? Fondamentalement, qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus ? Pardon ? Pour ? Vainqueur de la mort, oui ? Nous réconcilier avec le Père ? Racheter de la loi, racheter le péché, pardon ? Ouais, c'est vrai, mais encore, reprendre le royaume, détruire les œuvres du diable, oui, tout ça c'est vrai. Voilà, alors on est dans le ministère de la maison d'Élie. En fait, c'est pour refaire une alliance. Et là ? C'est pour ça que tous les dimanches, on a ce symbole de l'alliance. Un culte chrétien est un culte qui célèbre l'alliance, mais la nouvelle alliance. Ça, c'est l'Ancien Testament, et ça, c'est le Nouveau Testament. C'est vrai que, vous voyez, la preuve testament, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quelqu'un qui laisse derrière lui, au moment de sa mort, voilà, quelque chose qui va s'accomplir. Mais l'alliance, c'est plus fort. L'alliance, c'est quelque chose d'indéfectible. C'est quelque chose qu'on fait. Et quand Jésus a établi l'alliance, au moment de sa mort, quand à chaque fois on répète cette alliance au moment de la scène, hein, pendant le culte, Et ça, c'est fondamental à retenir, que c'est grâce à cette alliance que Jésus a fait, qui a été scellée par son propre sang. Ce qui n'a pas été le cas de l'alliance de Moïse. C'est des agneaux, c'est des bœufs, c'est des animaux qui ont versé leur sang pour sceller cette alliance, la première alliance. Cette alliance-là, c'est de l'alliance de grâce, l'alliance que Jésus a scellée. Cette alliance-là, elle est indéfectible parce que c'est Jésus qui, en tant que Dieu, troisième personne de la Trinité, une des personnes de la Trinité, a donné sa vie lui-même. Voyez-vous, c'est une alliance qui est indéfectible. Et la Bible dit d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, que si les hommes rompent l'alliance, Dieu ne la rompra jamais. Et c'est pourquoi, en tant que chrétien, on peut avoir cette assurance que jamais Dieu va rompre l'alliance avec nous, même si on s'éloigne de lui. On aura des conséquences du fait qu'on s'éloigne, parce que le péché va faire son œuvre. Et les conséquences du péché, il faut les payer. Mais Dieu garde son alliance, donc on peut revenir à lui. C'est pour ça qu'il faut prier pour les chrétiens qui s'éloignent, pour différentes raisons, qu'ils reviennent au Seigneur, parce qu'il y a un lien qui les rattache quand ils ont donné leur vie à Jésus. Eh bien, le Seigneur les cherche jusqu'à ce qu'ils reviennent. Parce qu'il y a une alliance, on est dans une alliance. Vous voyez. Donc le mot ce matin que j'aimerais que vous puissiez retenir, ce jour de Pentecôte, c'est le terme de l'alliance. On est dans cette alliance, et Pierre le rappelle. Et cette alliance, fondamentalement, elle consiste en quoi? Fondamentalement, elle consiste en quoi? En lien avec la loi. C'est ce que tous les prophètes ont prophétisé, qui allait arriver. En lien avec la loi, quel est fondamentalement le cœur de l'alliance? Qu'est-ce que fait cette alliance? Une fois, oui? Oui, alors ça c'est le principe de la grâce. Mais par rapport à la loi, qu'est-ce qui passe dans cette nouvelle alliance? Dans la première alliance, là il est inscrit dans nos cœurs. La différence entre la loi de Moïse, où c'est des tables de pierre, ici c'est des tables de chair. Okay. Donc la différence, c'est que nos cœurs, c'est pas notre cœur physique, c'est le cœur de notre identité, notre personne. Le Saint-Esprit, et ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, il prend sa plume et il écrit la loi dans nos cœurs. La loi est présente. Attention, la loi n'est jamais mauvaise. Ce n'est pas parce que les pharisiens ils utilisent la loi pour se justifier qu'il faut jeter la loi. Non, la loi est plus que jamais importante. Il faut obéir à la loi. Sinon, Jésus l'a dit. Il a dit, celui qui m'aime, il me suit et il obéit à mes commandements. Il obéit à la loi de Dieu. Et donc un chrétien qui ne veut pas obéir à la loi, il est totalement en dehors de l'alliance. De la grâce. Voyez. C'est simplement le médiateur qui est différent, le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, apparaît principalement dans le Nouveau Testament. Non pas qu'il était absent de l'Ancien Testament, on peut voir le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, mais il est révélé. Voyez-vous, l'histoire de la rédemption, c'est une révélation progressive du plan de Dieu. Avec le centre de cette histoire, c'est Jésus. Jésus, le médiateur parfait, Jésus, l'intercesseur parfait, Jésus, celui qui nous a délivrés du péché et qui met dans nos cœurs, qui écrit dans nos cœurs la loi. C'est pourquoi aucun chrétien, sinon il n'est pas chrétien, il peut se dire chrétien, mais un vrai chrétien, il sait dans son cœur s'il obéit à Dieu ou pas. Alors, il connaît plus ou moins la parole, donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'un chrétien doit lire la parole pour qu'il connaisse la parole, la loi de Dieu. La loi, elle est bonne. Si on obéit à toute la loi, Jésus l'a fait, il a obéi à toute la loi. Il n'a pas été pris en défaut dans aucun domaine de la loi. Sauf qu'il connaissait l'esprit de la loi. voyez, le samedi, le sabbat. Il guérissait aussi. Parce que, voilà, bien sûr, le sabbat est important, mais guérir est encore plus important. Libérer quelqu'un est encore plus important, etc., etc. Donc, Jésus connaissait le cœur de la loi. C'est le Père qui a donné la loi, qui est la loi du royaume, qui est celle que nous devons tous appliquer. Voilà, donc, je voulais juste faire cette introduction de la Pentecôte. Alors, ici, vous voyez, Jésus est tellement à cheval sur la loi, je dirais, qu'il a respecté la loi que Dieu a donnée, bien sûr, à Moïse, où il y avait des fêtes pour Israël, ici. Donc Israël, le peuple d'Israël, a commencé avec Moïse, pas avec Jacob, puisque là, il y a eu 450 ans en Égypte, et que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, était donné sur le mont Sinaï. Ici, Israël, eh bien, a reçu la loi pour pouvoir la respecter, mais il n'a pas réussi. Mais il avait des fêtes aussi. Donc, il y avait la fête de Pâques. D'accord ? La fête de Pâques, il fêtait la sortie d'Égypte. Donc, le salut, parce qu'en Égypte, ils ne pouvaient pas tenir le culte. Et ils ont crié pendant 400 ans à Dieu, jusqu'à ce que Dieu réponde. Et parfois, nos prières, il faut attendre un petit peu. Bon, peut-être pas 400 ans, mais eux, ils ont attendu 400 ans, jusqu'à ce que Dieu entende leurs prières et les sauve. Et donc, il les a sauvés. Donc, c'est la fête du salut. Ils ont été sauvés. Le passage de l'esclavage à la liberté. Ils ont été sauvés à Pâques. Mais ils avaient une autre fête, c'était la Pentecôte. Pentecôte. Et qu'est-ce qu'ils fêtaient à la Pentecôte ? Il y avait trois fêtes essentielles en Israël. Après, il y avait des petites fêtes, des fêtes moins importantes. Mais Pâques et Pentecôte, c'était deux grandes fêtes. Et qu'est-ce qu'ils fêtaient à la Pentecôte ? Autre ? Une autre signification de la fête, parce que le don de la loi, en fait, c'est venu après. Mais la première origine de la fête de Pentecôte, c'était quoi ? Non, pas la moisson, il manque un mot. Pardon ? La fête des huttes, des tentes, ça c'est la troisième fête. Mais la Pentecôte, c'était quoi la fête ? Originelle, tout à fait au début de la fondation d'Israël. Pardon ? Ça s'appelle comment ? Les prémices. Prémices. C'est les prémices de la moisson. Vous savez, l'être humain, pour vivre, bon, il y a le spirituel, on est dans une église, on parle du spirituel, mais la première chose, c'est quand même de manger et de subvenir à la vie du corps, parce que nous avons un corps. Et donc, c'est important d'avoir des récoltes. Pour avoir des récoltes, il faut des semences, il faut de la terre, et il faut que le climat soit favorable avec la pluie au bon moment, le soleil, etc. C'est d'accord. Bon, Israël était soumis à ce principe de la nature. Et comme ils étaient reconnaissants à Dieu, les prémices, c'était une fête de réjouissance parce que c'était les premiers blés qui ont poussé. Vous voyez, les premiers blés, ceux qui connaissent un peu la nature, l'agriculture, les agriculteurs, même ici en Europe, ils sèment en octobre du blé qui pousse tout de suite, parce qu'il est déjà, dans la terre, quoi. Il pousse tout de suite dès qu'il y a les premiers rayons de soleil, en février, mars, et des fois, d'un seul coup, hop, là, les blés, vous voyez, déjà à cette hauteur-là. Mais ils n'ont pas été plantés en février, ils étaient plantés en octobre. En Israël, c'est encore mieux, parce qu'ils n'ont pas des hivers rigoureux comme nous, etc. Donc, ils récoltent les premiers blés à la Pentecôte. Et ce sont des gerbes, et dans cette fête, c'est une fête de réjouissance. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec Pâques, c'est une fête de réjouissance qui est liée à une fête agraire, de reconnaissance à Dieu, de ce que il y a les premiers fruits, les prémices qui sont apportés. On a parlé de consécration. Ils consacraient parce qu'ils étaient reconnaissants à Dieu qui leur donne à manger. Hello? Dans le désert, ils avaient la manne. C'était magique, je dirais, voilà, et pas de blé. Mais en Canaan, ils étaient liés à l'agriculture. Et donc, la fête de la Pentecôte, c'était absolument important pour être reconnaissant à Dieu que Dieu nous donne la nourriture. Aujourd'hui, pourquoi le christianisme n'a plus la même fonction qu'avant, la même à cause du matérialisme, ouais, à cause des Chinois, je dirais, qui produisent tellement, les gens veulent acheter, etc. Ils ne sont pas reconnaissants que ça vient de Dieu. Donc on n'est pas reconnaissant à Dieu. C'est pour ça que les chrétiens, il faut faire très attention au consumérisme, hein, parce que ça détruit la foi. C'est le premier facteur qui détruit la foi. On n'a plus besoin de Dieu. On va au champ, on va à Carrefour, on va dans les magasins, on cherche, on remplit le caddie. Voilà. Donc on veut de l'argent, bien sûr, mais ensuite après. Vous voyez, le principe d'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il nous donne à manger est très éloigné à cause de la société dans laquelle nous sommes. Mais cette fête de Pentecôte, justement, était là pour sceller ce temps où on prend à part dans la liturgie de l'époque d'Israël, on prend le temps pour remercier Dieu pour les prémices. Et c'est une fête qui était située 50 jours, Pentecôte, Pentacle, Pinte, voilà, c'est encore du grec, 50. 50 jours, tout simplement, ça s'appelle 50 jours après la Pâque. 7 fois 7 plus 1. 7 fois 7, c'est le chiffre parfait, 7. 7 fois 7, 49 plus 1, c'est le lendemain du 7 fois 7. Voilà. Vous voyez, c'est un jour aussi qui symbolise la perfection de Dieu. Quand les apôtres disent, mais combien de fois il faut que je pardonne? 7 fois 7, 7 fois 77 fois. Vous voyez, c'est symbolique, c'est des symboles dans la Bible qui montrent, là on est dans la perfection de Dieu. Dieu nous donne la nourriture en abondance dans... comme aux oiseaux du ciel, il le dit dans le sermon sur la montagne, ne vous inquiétez de rien parce que le Seigneur prend soin de vous, voilà, il prend soin de nous, y compris dans la nourriture. Donc la Pentecôte, j'insiste, c'est que ça n'a rien à voir avec l'aspect spirituel, hein, d'un salut, c'est une fête de réjouissance. Et Jésus a respecté les fêtes. Il est descendu à Jérusalem pour la Pâque et il s'est substitué à l'agneau et est devenu l'agneau pascal. Et la Pentecôte s'était orchestrée au jour près. Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem parce que le Saint-Esprit doit venir sur vous et vous serez mes témoins. De la Pâque à la Pentecôte, les apôtres... avec d'autres disciples, 500, ils étaient enfermés dans une pièce parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de ce qui allait leur arriver. Ils savaient que Jésus, qui était avec eux, il était puissant pour calmer la tempête, était puissant pour chasser les démons, était puissant contre les autorités romaines. Enfin, voilà. Donc, ils étaient protégés. Mais là, Jésus est parti. Et d'ailleurs, les disciples d'Emmaüs l'ont dit. Ils ont dit, tout s'est écroulé. Tout notre univers s'est écroulé. On espérait tellement et plus rien. Donc ils étaient dans le désarroi le plus total. Et Jésus a choisi le jour de la Pentecôte en leur disant ce jour-là. Alors ils ne savaient pas que ce serait la Pentecôte. Mais vous voyez, Dieu respecte ce qu'il a mis en place dans son alliance. Il respecte ce jour-là pour leur donner le Saint-Esprit. Et c'est quoi cette signification du jour de la Pentecôte ? C'est tout simplement ce que dit le prophète Joël. Le prophète Joël l'avait prédit. Je répandrai dans les derniers jours de mon esprit sur toute chair. Comme je le disais, dans l'ancienne alliance, avant Jésus, c'est le même Dieu, en trois personnes. Mais les trois personnes, trois personnes se sont manifestées à Abraham. Donc déjà, la Trinité s'est manifestée dès le début de l'histoire, ici, du peuple d'Israël. Mais là, Jésus, il nous a montré cette relation au sein de la Trinité. Il avait une relation constante avec son Père. Mon Père m'aime. Et moi, je l'aime en retour, etc. Cette relation avec le Père. Et il manquait le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte, parce qu'il remplace Jésus. Et Jésus l'a dit à ses disciples. Les disciples ont dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Il a dit, mais il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand les disciples étaient avec Jésus, il était là physiquement avec eux. Mais il dépendait de Jésus. Il n'avait pas d'autonomie personnelle, d'une énergie intérieure qui les animait. Jésus avait reçu le Saint-Esprit au moment du baptême, de son baptême. Mais eux, non. Et Jésus a dit, le jour de la Pentecôte, donc quand il viendra, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Mais vous voyez, une puissance, c'est la dynamis de Dieu, c'est la puissance. Le Père, c'est le Créateur, l'Initiateur, celui qui est l'origine, la source de toute chose, qui donne la divinité à Jésus, au Saint-Esprit. Jésus, c'est celui qui est le missionné, le serviteur parfait, qui est missionné, qui accomplit sa mission telle que le Père lui a donnée. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. On le voit déjà à l'œuvre dans Genèse 1, quand l'Esprit planait sur les eaux. Et Dieu a transformé le chaos en un monde ordonné, de l'ordre. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il manquait cette dimension de la troisième personne dans les croyants ici. Le Saint-Esprit, on le voit dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises. Il fait prophétiser Saül, il fait prophétiser. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient et qui repart. Voyez, il ne demeure pas dans le croyant. Ici, le Saint-Esprit demeure dans le croyant, dans le cœur même du croyant. Et il inscrit la loi, la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand on utilise le Saint-Esprit à tout va, une puissance, ceci, cela, la première des choses de la puissance, c'est la puissance de la parole. Parce que l'Évangile, s'il n'est plus l'Évangile, eh bien, il n'a plus la puissance et l'autorité de son contenu. Et le Saint-Esprit, il veille à ce que le contenu, parce que Jésus a dit, il enseignera ce que je vous ai dit, et il me glorifiera au travers de la parole. Donc le Saint-Esprit est celui qui a été donné à l'Église. L'Église veut simplement dire assemblée. Le mot Église, c'est assemblée. Donc c'est une assemblée. Sauf que ici, l'assemblée d'Israël, c'est une assemblée basée sur une race, sur un héritage humain, sur Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches, ensuite les tribus, etc. Et voilà, on cherchait à ce qu'un juif, aujourd'hui, voilà, on ne sait plus trop qui est juif, parce qu'il y a tellement de mélange entre les hommes et les femmes, qui n'étaient pas des races pures hein, de juifs. Mais bon, l'idée, c'est que ça repose sur une famille, une nation, puisque c'est un État-nation, Israël. Mais avec Jésus, c'est une assemblée universelle. Toutes les nations, toutes les races, hommes, femmes, esclaves, juifs, tout confondu, font partie de l'Église. C'est une assemblée où le Saint-Esprit descend pour faire un seul corps, un corps universel. La manifestation locale, c'est juste une manifestation d'une réalité universelle. Mais nous appartenons à un seul corps. Il n'y a qu'une seule Église, qu'une seule assemblée, et y compris les Juifs qui font partie de cette assemblée. Il y a des promesses pour les Juifs, ça c'est autre chose, ça c'est l'histoire en 48, etc. Bon, mais il n'y a qu'une seule Église, qu'une seule assemblée, c'est celle que le Saint-Esprit crée quand il vient sur les croyants. Et c'est ce que dit en sorte Pierre et les voix apostoliques, puisque l'ensemble des apôtres sont derrière Pierre, en disant, voilà, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, etc., etc. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je voudrais lire aussi Éphésiens du chapitre 1er, versets 3 à 14, le livre des Éphésiens, enfin l'épître des Éphésiens, si vous voulez, c'est la magnificence de l'Église. C'est magnifie l'Église. Elle explique ce que c'est que l'Église. Et donc, le jour de la Pentecôte, c'est l'Église qui a été instituée par le Saint-Esprit. Jésus l'a instituée dans Matthieu 16, avec Pierre, de manière institutionnelle, de manière officielle, de manière légale, si vous voulez. Et le Saint-Esprit l'a manifestée dans sa réalité. Et voilà ce que dit Éphésiens, Paul dans Éphésiens, dit « Béni soit le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Et où les temps se sont accomplis chronologiquement à l'époque de Jésus. Pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunis sous un seul chef. Il n'y a qu'un seul chef de l'Église, ce n'est pas le pape, c'est Jésus. Sous un seul chef, le Christ. Tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, donc consacrés, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et là, d'un seul coup, Paul, il change de ton. Jusqu'à présent, il a parlé de nous, et maintenant il parle de vous. Il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité. Pourquoi il dit ça? Vous aussi. Parce qu'au début, il parle aux Juifs, et maintenant, il parle aux païens. Vous aussi. Voyez-vous, les Juifs, bien sûr, sont les premiers. Jésus était juif. Les Juifs, c'est l'accomplissement du Messie qui était annoncé, qu'ils ont reçu. Pour la plupart, ils l'ont rejeté, mais il y en a qui l'ont accepté. Okay, donc, il y a un petit nombre de juifs qui l'ont accepté, donc il parle à ceux-là. Vous, juifs, maintenant, vous vivez l'accomplissement de ce que tous vos prophètes ont réalisé, ont annoncé. Mais maintenant, vous, païens, et en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, voyez-vous, l'évangile apparaît là, à ce moment-là. Parce qu'au départ, c'est simplement une continuité de l'œuvre dans le peuple juif qui s'accomplit. Voyez-vous ? C'est un peu comme si vous attendez quelqu'un et puis il y a un tas de gens qui viennent à la porte, c'est pas eux, voilà, vous attendez quelqu'un, ah c'est vous. Bon, voilà, c'est simplement Jésus, à un moment donné, il arrive, alors qu'il était attendu depuis des décennies. Et rappelez-vous qu'il y a eu 400 ans de silence entre Malachie et Jésus. Et ça, c'était voulu, parce que Dieu aime bien que les gens attendent, que nous cherchions Dieu, que ce n'est pas un Dieu, vous voyez, machine à sous, quoi, hein, etc., etc. Non, il veut qu'il attende. Et rappelez-vous que Siméon, il attendait le Messie. Et quand Jésus, bébé, est arrivé, il savait qu'il était là. Voyez-vous, il y a dans l'esprit une compréhension des temps que nous vivons. Et il est allé dans le temple, et c'est lui qui l'a consacré. Et dit, maintenant, je peux m'en aller en paix, parce qu'il était sur le point de mourir. J'ai vu le Messie. Voyez-vous, il y a des Juifs qui attendaient réellement, après même ces 400 ans de silence total, il n'y a plus aucun prophète, il n'y a plus rien, etc. Eh bien, ils attendaient. Mais Dieu veut que nous l'attendions. Dans nos situations, dans nos difficultés, dans les problèmes que nous avons tous, Dieu veut que dans cette attente, nous lui fassions confiance. Et c'est là qu'il éprouve notre foi et qu'il fait grandir notre foi. Ce n'est pas dans les moments faciles que notre foi grandit. On est content, on est heureux, c'est super, c'est pas un problème. Mais nous sommes dans un monde en difficulté, péché, grandissant, etc. Et notre foi a besoin d'être affermie en lui. Et c'est dans ces moments de silence qu'il nous faut chercher Dieu, même si nous pensons qu'il n'est pas là. C'est là qu'il est là pour une œuvre merveilleuse. Jésus est venu à un moment donné où personne ne s'attendait, sauf ceux qui l'attendaient, ils l'ont reconnu. Les bergers l'ont reconnu, les mages l'ont reconnu, mais Hérode ne l'a pas reconnu. Les pharisiens ne l'ont pas reconnu, les chefs des juifs ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont crucifié. Donc c'est toujours le même déroulement dans l'histoire, ceux qui cherchent. Et là, il dit, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Il y a une histoire magnifique que j'ai lue, là, que je voudrais vous laisser. Charcot, qui est-ce qui connaît Charcot ? C-H-A-R-C-O-T, pardon ? Explorateur, oui. Un explorateur des terres polaires. Voilà, il connaissait bien le pôle Nord. Pôle Sud, je ne sais pas, mais pôle Nord. Hein, pôle Nord. Grand explorateur des terres polaires. Et il a préparé une nouvelle expédition. Hein. Vous imaginez qu'une expédition au pôle Nord, surtout à son époque, ce n'était pas n'importe quoi. Et ceux qui devaient l'accompagner et qui avaient fait d'autres voyages avec lui, avaient accepté ses plans et son itinéraire. Hein, parce qu'il avait prévu d'aller à tel endroit pour explorer tel endroit. Quand brusquement, il dut changer de programme. Le voyage comportait encore plus de fatigue et plus de danger. Alors, il prévient ses collaborateurs et les invite à reconsidérer leur choix. C'est-à-dire, voilà, je suis désolé, je prends une autre itinéraire, mais je ne vous oblige pas à aller avec moi. Vous savez quelle était leur réponse ? Eh bien, elle se résumait toute dans le télégramme de l'un d'entre eux. Et dans son télégramme, il dit à Charcot, où vous voudrez, quand vous voudrez, tant que vous voudrez. Qu'est-ce que peut faire un homme qui soit devant tant de périls et qui accepte de suivre Charcot dans ce changement de programme ? Eh bien, c'est la confiance. C'est la confiance. La confiance dans la capacité de ce leader. Est-ce que nous avons confiance en Jésus ? Oui, la question est posée. Est-ce que nous avons confiance dans le Saint-Esprit ? Parce que le Saint-Esprit nous est donné pour vivre dans cette vie de foi sur la terre. Une vie de foi, c'est faire confiance à Dieu qu'il a nos destinées dans sa main. Même si nous ne voyons pas nous, nous ne comprenons pas par quel chemin ça passe. Et, ouais. Et ça, c'est un témoignage d'hommes qui ont fait confiance dans leur leader. Alors, à plus forte raison, nous pouvons faire confiance au Saint-Esprit, qui lui connaît le chemin par lequel nous devons passer. Rappelez-vous comment il a conduit Paul en Macédoine. Il lui a montré une vision en disant, maintenant, tu dois aller en Macédoine. Parce que lui est resté en Turquie. Et l'Europe n'aurait jamais été évangélisée si Paul n'était pas allé en Macédoine. Il l'a conduit. Mais, voyez-vous, ce n'était pas forcément un ange à ce moment-là. C'était simplement dans son cœur. Il y avait un blocage. C'est pour ça qu'on parle de porte ouverte, porte fermée, on prie. Enfin, il y a toute la recherche de la volonté de Dieu, voyez. Mais bon, ce n'est pas une technique. C'est simplement une manière que le Saint-Esprit nous conduit jour après jour dans la foi. Et dans le fait que, si nous avons compris l'évangile du salut, c'est pour ça que Paul parle de l'évangile du salut, la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut, c'est que nous avons une alliance de grâce. Nous n'avons pas besoin de faire des choses. Par contre, la loi, qui est dans notre cœur, nous sommes responsables. Et ça, le protestantisme, avec Luther, l'a mis en exergue, contrairement au catholicisme. Catholicisme, si vous suivez la liturgie, si vous suivez le catéchisme, si vous suivez ce que votre curé vous dit, etc., voilà, vous êtes un bon catholique. Bon, si vous ne le faites pas, hop, vous n'aurez plus l'Eucharistie, machin, etc. Voilà, c'est des devoirs religieux. Et c'est l'Église qui pense pour vous. Le protestantisme, c'est que chacun d'entre vous, on est responsable, parce que dans chacun de nos cœurs, la loi a été inscrite par le Saint-Esprit. Et vous savez si vous faites mal ou pas mal. Et c'est à ce moment-là, quand vous êtes tenté dans votre vie de tous les jours de faire quelque chose qui n'est pas conforme, de dire non Seigneur, et d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur, de dire non Seigneur, je ne le ferai pas. Aide-moi. On demande l'aide du Saint-Esprit. C'est ça la relation, contrairement à la religion. Et là, nous avons tous besoin de grandir. Nous préférerons une religion. C'est plus facile. Une religion, vous avez une norme, vous êtes dans la norme, c'est bon. Vous n'êtes pas dans la norme, c'est pas bon. Une relation, c'est qu'à chaque instant, le Saint-Esprit vous parle. À chaque instant, votre conscience vous parle. Parce que la conscience, ça remplace un peu le Saint-Esprit au sens où il met en vous des réflexes salutaires. Mais la conscience, elle peut se détériorer. Si vous marchez dessus, je prends un exemple, si vous prenez quelque chose dans un supermarché, bon, un petit truc, hein, voilà, et vous passez à la caisse, vous n'êtes pas vu. Ah, mais tiens, ça marche. Deuxième fois, ça marche. Troisième fois, ça marche. La conscience ne va plus vous dire que vous êtes en faute, voyez. La conscience, je prends toujours l'exemple de ce livre qui m'a beaucoup marqué, de John White, qui disait que ses parents étaient chrétiens, très à cheval, tout ça, il ne faut pas aller au cinéma. Donc, pour lui, aller au cinéma, c'était un péché. Sa conscience lui interdisait d'aller au cinéma, dans une salle publique, etc. Et un jour, un copain lui a dit « Ah, tu viens avec moi, on va voir un Charlot. Charlot. » Et il a dit « Non, non, je ne peux pas. » Voilà, donc, voilà, il ne pouvait pas. Et finalement, il est allé quand même, mais pendant des nuits, je ne sais pas, il n'a pas dormi, sa conscience lui disait t'as péché. Jusqu'à ce qu'il comprenne que non, c'est pas un péché de voir Charlot, voilà, mais bon, il était programmé, vous voyez, sa conscience. Et la conscience, on peut la déformer jusqu'à ce qu'elle ne parle plus. Vous voyez, bon, ça c'est un exemple qui n'est pas méchant, mais c'est quelque chose qui montre comment fonctionne notre conscience. Donc, dans le Nouveau Testament, et je termine ma lecture au verset 14, hein, je relis le verset 13 parce qu'il est super. En lui, vous avez, nous les païens, nous qui ne sommes pas juifs, donc vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, et l'Esprit, c'est une parole de vérité, il annonce la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Là, j'ai juste une autre histoire, je vais terminer là-dessus aussi, qui est superbe, qui est l'histoire de... Où est-ce que je l'ai noté, celle-là ? Voilà, de Marco Polo. Alors là, tout le monde connaît Marco Polo, un explorateur aussi au XIIIe. Il fut un jour pris dans une patrouille des soldats en Mongolie. Il était en Mongolie, il était un peu partout. Hein. Son père et son oncle s'était éloigné du campement et devait revenir assez vite. Mais à ce moment-là, il était seul. Et des soldats mongols, qui étaient réputés pour leur sauvagerie, hein, ils avaient décidé de lui couper la tête à Marco Polo. Alors il pleurait de crainte. Et il se souvint d'un sceau, parce que je parle du sceau du Saint-Esprit, d'un sceau. Vous savez ce que c'est un sceau ? Le sceau du roi, là ? Avec de la cire, le cachet, etc. Il se souvient d'un sceau qui lui avait été donné par Genghis Khan. Vous connaissez Genghis Khan ? C'est l'empereur de la Mongolie. C'est un peu un sauvage, hein. Il est devenu empereur. C'était un grand militaire, voilà, qui a gagné un peu comme Napoléon. Hein. Et il se souvient d'un sceau que Genghis Khan lui avait donné. Et ce sceau lui a sauvé la vie. Il a montré le sceau. Ça veut dire qu'il avait une alliance avec Genghis Khan. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est notre sceau. voyez, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Ça veut dire que quand on sort le sceau du Saint-Esprit, personne ne peut nous toucher. Personne. L'ennemi ne peut pas nous toucher. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous prends la main, c'est ce verset, jusqu'à la fin du monde. Je vous tiens dans ma main. Voyez, c'est pour ça que quand on est appuyé sur ce que c'est que le Saint-Esprit, ce qu'il nous apporte, ce sceau qui scelle notre élection, ce sceau qui scelle notre adoption, ce sceau qui scelle notre appartenance à Dieu, eh bien, il faut sortir de la peur. La peur est légitime. Nous pouvons avoir peur d'un tas de choses. Mais à un moment donné, il faut se ressaisir, il faut aller dans l'adoration. C'est dans l'adoration dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as scellé par le Saint-Esprit. Et l'ennemi doit fuir, et il fuira. Et c'est comme ça qu'on apprend le combat spirituel, c'est comme ça qu'on apprend la victoire dans le Seigneur. Quand on utilise les vraies armes. Les vraies armes, c'est pas, voilà, je sors mon épée et puis je pourfends toutes les puissances célestes et tout ça. Non, c'est quand je dis, le sceau du Saint-Esprit est sur moi et tu ne me toucheras pas. Tu ne me toucheras pas. Ça, c'est l'autorité, c'est une position. Et je termine. Donc, le sceau, vous étiez scellé du Saint-Esprit qui a été promis et qui constitue le gage. C'est quoi un gage de notre héritage? C'est quoi un gage? Quand vous jouez là, le gage, c'est quoi le gage? Hein? Vous connaissez tous le gage? Là, c'est de la théologie. Là. Le gage de notre héritage. Pardon? Une garantie? Absolument. Le Saint-Esprit qui a été donné à la Pentecôte est la garantie de tout ce que nous allons vivre dans l'éternité. Ce n'est qu'un... En droit français, si vous voulez acheter un bien pour rassurer et garantir votre achat, que quelqu'un ne vienne pas derrière vous acheter le bien, si vous êtes une maison, une voiture, etc. Normalement, en droit français, vous donnez 5%. 5%, donc pour 100 euros, 5 euros, 1050, etc. 5%. C'est le droit. C'est-à-dire, si quelqu'un vient vous voler le truc, dire attention, le propriétaire ne peut pas. Le juge va dire non, c'est le monsieur là qui l'a acheté. On ne peut pas le vendre à quelqu'un d'autre, voyez. Eh bien, ça, le Saint-Esprit, c'est le gage. Quand on a reçu le Saint-Esprit ici, par l'évangile de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, on a le gage de notre héritage. Ça veut dire que rien ne peut nous arriver d'autre que l'héritage que Dieu nous a donné. C'est quoi cet héritage? Il est fantastique. La vie éternelle, la résurrection de nos corps, la présence éternelle avec Dieu, l'éloignement de l'ennemi qui, lui, va être jeté dans les temps de feu et de soufre, etc. Vous voyez, c'est ce gage-là. Est-ce que nous tenons à cet héritage? Eh bien, nous recevons le gage par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous sommes tous là pour célébrer sa gloire. Amen. Nous le faisons en culte, nous le faisons chez nous, nous le faisons le plus souvent possible, mais nous le faisons éternellement. Nous sommes tous ensemble, une même famille, un seul corps, pour l'éternité, pour célébrer la gloire de Dieu. Amen. Toute la gloire lui est rendue. Toute la gloire lui revient. Et c'est par le Saint-Esprit. Voyez-vous, la fête de Pentecôte, à quel point elle est riche. Et c'était, au temps des Juifs, une fête de réjouissance. Il y avait des danses, il y avait... Voilà, c'était une réjouissance. Et Dieu l'a transformée. Enfin, Jésus l'a transformé en envoyant son Saint-Esprit ce jour-là sur les disciples pour leur donner le gage. Et c'est à partir de là qu'il a dit « Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. » Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Parce que vous êtes des fils et des filles de rois. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des personnes que l'ennemi ne peut pas toucher. S'il vous touche, eh bien, vous faites le ministère de la Maison d'Élie. Hein, vous connaissez maintenant le processus. Hein. Voilà, simplement, il faut guérir, il faut être restauré, il faut voilà, honorer père et mère, etc. Il faut obéir à la loi qui est dans votre cœur, c'est tout. Voilà. Si vous ne la connaissez pas, bah, apprenez-la, la loi, parce qu'elle est là, la parole. Mais elle est là. Et le Saint-Esprit va vous aider. C'est une puissance, c'est une dynamite, c'est une autorité dans votre vie pour l'éternité. Amen. Voyez-vous, Père, Fils, Jésus, le Saint-Esprit, on a les trois personnes qui agissent de concert pour nous donner de pouvoir vivre notre vie chrétienne à la hauteur de ce que Dieu nous a promis. Amen. Seigneur, merci. Parce que à la Pentecôte, eh bien, ces choses sont arrivées pour notre salut, mais aussi notre gloire et ta gloire. Seigneur, nous sommes un avec toi et nous voulons demeurer en toi comme toi tu demeures en nous. Nous voulons, Seigneur, non pas nous éloigner de ta parole, parce que cette parole, Seigneur, nous annonce l'évangile du salut, nous annonce les vertus de ta gloire et de ta grâce. Et nous voulons, Seigneur, nous rapprocher de toi. Donne-nous aussi que dans les moments difficiles, les moments d'épreuve, eh bien, nous puissions regarder à ces choses comme étant des assurances que tu nous donnes. Et que, Seigneur, nous ne perdions pas pied à chercher en nous-mêmes les solutions. Mais c'est en toi que nous les avons. Et nous t'en remercions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.